habitudes et nos envies. Et tu nous donnais rendez-vous la nuit tombée avec les loups pour les beaux combats de ceux qui restent debout. Merci Léo d'avoir donné tant de talent aux variétés, qu'un 14 juillet vaut bien un jour ferré. Mais aujourd'hui qu'on met en terre les belles idées libertaires, la poésie s'en va Léo et ses misères. De l'avoir ainsi méprisé aux marges des palais friqués et des scènes d'État où l'art est étranger. Si un jour il n'y a plus rien que la mer qui va et qui vient et du bonheur à partager entre copains, nous n'aurons plus depuis longtemps ni Dieu ni maître dans nos rangs, et ta chanson sera plus forte avec le temps. Et ta chanson sera plus forte avec le temps. Merci Léo.
Bonjour, vous êtes bien sur 89.4 FM, Radio Libertaire, et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Cartable.
Aujourd'hui est un jour très spécial.
Connaissez-vous la date ? Mardi, nous étions le 6 février.
Ça ne vous rappelle rien ?
Si vous avez écouté les dernières émissions, vous savez qu'il s'agit d'une date particulière.
Le Nouvel An chinois ?
Non, c'est le 10 février. La Chandeleur ?
Non, c'est le 2 février.
C'est ton anniversaire ?
Mais non, c'est le 14 février.
Ah, alors c'est celui de la maîtresse ?
Mais non. Allez, je vous le dis. C'est la date de naissance de Radio Cartable.
La première émission a eu lieu le 6 février 1984. Mais comme nous diffusons le jeudi, on le fête aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'on dit ?
Bon anniversaire, Radio Cartable.
Sanahi doya gamin.
Anyarena gay color.
Cumpleaños feliz.
Suscriban a Psychosocasi Rodin.
Utukulu qui aime beauté.
Bon compleanno.
Cablo cablo, mercredi.
Soxan van Kut.
Mohamema.
Amulam Giz.
Après Bev, là c'est où, Radio Cartable?
Happy birthday to you, Radio Cartable.
C'est Nicho Canada, Radio Cartable.
Alors, Radio Cartable, c'est quoi ?
Des enfants grands comme petits.
Une émission tous les jeudis.
Des rubriques fantastiques.
Des jeux mathématiques.
Mais alors, ça lui fait quel âge ?
40 ans.
Waouh, c'est archi vieux !
Oui, ça fait 4 fois 10 ans.
Alors, bon anniversaire Radio Cartable.
Enchante !
Bon anniversaire Radio Cartable. Bon anniversaire Radio Cartable. Bon anniversaire Radio Cartable. Bon anniversaire.
Oui, la joie !
Et maintenant, quelques messages reçus à cette occasion.
Bonjour, je m'appelle Claude, j'ai 39 ans, presque l'âge de Radio Cartable, donc joyeux anniversaire Radio Cartable, joyeux 40 ans. Pour moi, Radio Cartable, alors j'étais moi d'abord avant tout à l'école Maurice Thorez dans les années 90 surtout, et j'ai participé à Radio Cartable de temps en temps, surtout entre le CE2 et le CM1-CM2. Donc Radio Cartable pour moi ça m'évoque surtout le petit plus par rapport aux autres écoles, parce que c'était on avait un studio de radio et une vraie radio qui était diffusée quoi, donc pas le petit gadget. Et puis après on a participé avec les camarades à quelques émissions dans le cadre de spectacles organisés par l'école, de petits documentaires qu'on essayait de créer nous-mêmes au sein de la classe pour après être diffusés. Voilà, et ben encore une fois, joyeux anniversaire.
Je me présente, je m'appelle Kamel Mtiba, j'ai 30 ans et j'étais un des premiers petits animateurs quoi, en herbe de Radio Cartable à l'époque en 1984. Et je me rappelais qu'à cette époque-là, j'étais à l'école Langevin et j'étais en classe d'adaptation avec une institutrice qui nous a emmenés en petit groupe de 15, excusez-moi, à l'école Maurice Thorez pour raconter une petite histoire française. Et vu qu'on était en classe d'adaptation, on était des petits élèves, qu'on a eu des petits problèmes de français à l'époque et qu'on venait de l'étranger. Vu que nos parents sont d'origine étrangère, on avait des petites difficultés à parler en français. Et notre institutrice à l'époque a pris l'initiative de nous amener à cette école et nous présenter à Radio Cartable, tout début de Radio Cartable en 1984. Et je me rappelle bien que j'étais assis sur une chaise en bois devant un micro, un gros micro, et j'étais tout intimidé devant ce petit micro. J'avais un casque sur ma tête et je voyais autour de moi mes petits camarades en face de moi et l'animateur qui nous disait c'est à vous, racontez votre histoire, l'histoire que vous avez appris à l'école. Et c'était à Radio Cartable, c'était en 1984, et je me rappelle bien qu'à cette époque-là, à la fin de l'émission, mon institutrice est venue me féliciter, moi et mes camarades, d'avoir bien parlé, d'avoir l'effort de raconter cette histoire devant un micro. Et que je me rappelle bien de cet souvenir-là, c'était un souvenir très émouvant et qu'on était très fiers de nous-mêmes à cette époque-là, en 1984, parce qu'on venait d'une classe d'adaptation et qu'elle était un peu... voilà, quoi, comme je voulais dire. Et je me rappelle très bien, oui, de cette époque de Radio Cartable, c'était tout début. Et maintenant, je dis aux jeunes animateurs en herbe, de continuer l'histoire de Radio Cartable, parce que Radio Cartable, c'est l'histoire des Ivriens, des Ivriennes et des Ivriens, des enfants d'Ivry. Et ça fait maintenant plus de deux décennies, 20 ans maintenant que ça existe. Et moi, j'étais un des premiers, des pionniers de cette petite radio, de ce petit animateur en herbe. Et j'ai gardé souvenir très passionnant, très émouvant et très emblématique de cette radio. Joyeux anniversaire à Radio Cartable, j'espère qu'elle durera très 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 longtemps, de génération en génération. J'espère que mon fils, maintenant que je suis papa, d'un fils de 3 ans qui passera, j'espère, devant les micros de Radio Cartable, qui lui, j'espère, lui aussi racontera une émission, et j'espère que Radio Cartable durera toute la décennie de l'an 2000. Et bon anniversaire à Radio Cartable du fond du cœur. C'était Kamel.
Bonjour, je suis Arlette, ancienne institutrice de Maurice Thorez dans les années 80. Donc, effectivement, on a vu la naissance du bébé Radio Cartable. Donc, 40 ans pour un bébé, c'est quand même pas mal, surtout avec ce projet magnifique qui continue à perdurer et toutes les qualités que on veut transmettre à ces futurs auditeurs, écouteurs, producteurs, parleurs, citoyens, enfin, que de qualité. Encore un joyeux anniversaire, Radio Cartable. Bravo.
Abdoulaye, premier épisode, CM2, école Albert Einstein, classe de Philippe C. Aujourd'hui, mardi 10 janvier 1995, Abdoulaye Djemoke va vivre son premier jour d'école en France, car il a dû quitter son pays natal, le Zaïre. C'est son oncle qui l'a accueilli. Il vit à Ivry-sur-Seine, une ville de banlieue parisienne. Il est 14 heures quand, accompagné de son oncle, il va rencontrer pour la première fois la directrice de l'école Picasso. Il est très intimidé, ne prononce plus un mot. Des frissons lui parcourent le corps. Malgré ses 12 ans et sa grande taille, il serre la main de son oncle. Quand il pénètre dans l'école, une charmante femme blonde aux yeux bleus les accueille chaleureusement. Ah, bonjour, je suis enchantée de faire votre connaissance. Vous devez être le père de ce charmant jeune homme dont monsieur l'inspecteur m'a parlé. Bonjour madame la directrice, c'est bien Abdoulaye, votre nouvel élève, mais je ne suis pas son père. Je ne suis que son oncle. Oh, entrez dans mon bureau, nous y serons plus à l'aise. J'ai quelques petits papiers à vous faire remplir. Je vous ferai visiter notre établissement et Abdoulaye, c'est un prénom zaïrois, assez difficile à prononcer. Excusez-moi. Ensuite, je vous présenterai la classe, le maître, monsieur Carrier et ses nouveaux camarades. Une fois ces formalités remplies, tous trois visitent l'école. Abdoulaye n'a pas encore prononcé un mot. Il ne peut pas s'empêcher de s'exclamer : oh, mais quelle belle école ! Madame la directrice ! Oh, je suis heureuse qu'elle te plaise. Tu y feras sûrement de brillantes études. Tu peux m'appeler Marie, hein ? Ici, tous les enfants m'appellent ainsi. Oh, merci, madame... Marie. La visite achevée, l'oncle laisse Abdoulaye avec la directrice pour qu'il fasse connaissance avec sa classe. La directrice frappe à la porte. Une voix grave traverse les murs, ce qui effraie un peu Abdoulaye.
Entrez !
La directrice ouvre la porte et entre, accompagnée d'Abdoulaye. Bonjour, monsieur Carrier, bonjour les enfants.
Bonjour, Marie !
Répondent les enfants en chœur, le regard fixé sur Abdoulaye. Ils sont impressionnés par sa grandeur. Il dépasse largement la directrice. Il est aussi grand que le maître. Le visage d'Abdoulaye surprend aussi les élèves. Ses joues portent des cicatrices et sa peau est d'un noir profond. La directrice fait les présentations. Voici un nouvel élève qui arrive du Zaïre. Il se nomme Abdoulaye.
Après la lecture de ce premier épisode du livre Abdoulaye, par Daniel Pasquier, cette dernière nous donne quelques explications sur ce projet fédérateur mené au début des années 1990 avec l'aide de Marie-Claude Boyer.
Ce projet Abdoulaye, c'était ceci, à l'initiative de Philippe Colomine, qui a quand même été un grand instituteur qui a porté énormément et qui était sur l'école Einstein. Il a initié un projet qui a eu quand même un retentissement, j'ose dire international, puisqu'il a été ponctué par le deuxième prix international en langue française d'action de prévention. La classe de Philippe avait commencé une rédaction et effectivement le fait de le dire, d'un petit texte. C'était un enfant, Abdoulaye, qui vient d'un pays étranger, et qui aboutit dans une école qui ressemble étrangement à l'école Einstein, mais elle s'appelle Picasso. Et il a plein de problèmes, des problèmes d'enfants. La première émission se terminait par « Comment être aidé ? Où trouver de l'aide ?» Et les classes qui écoutaient ont eu pour mission, de la même façon qu'on fait les livres dont vous êtes le héros, de trouver une solution pour Abdoulaye, et de continuer un texte. Donc, comme il y avait plusieurs écoles, il y a eu 18 écoles qui ont participé tout au long de l'année, dont des CM1, des CM2, un PERF, et chaque classe, ou pas, enfin, certaines classes, plusieurs classes, proposaient des solutions et continuaient un texte. Et le texte se terminait par une autre interrogation en mettant en scène d'autres enfants. il y avait une petite fille, Anan. La petite Anan. Et chaque enfant avait son problème. Il y en avait un qui était un enfant malheureux à l'école et peut-être aussi à la maison, où trouver de l'aide. Il y en a un qui était rejeté, peut-être un petit peu harcelé, où trouver de l'aide. Ces émissions ont constitué un grand feuilleton radiophonique relayé dans toutes les écoles, vraiment selon la volonté vraiment de Madame Lotroïc, la fin de l'année. On s'est dit, il faut continuer. Donc, on en a fait un livre, un petit livre qui s'appelle Abdoulaye, qui a été illustré par les enfants aussi. Donc,
Abdoulaye, mon ami.
Abdoulaye, mon ami. Toute cette année a été soutenue aussi par les médecins scolaires, les psychologues scolaires qui intervenaient et qui pouvaient recevoir les enfants en petits groupes ou même individuellement si l'un d'entre eux avait justement l'envie de dire quelque chose. Ça, c'était quand même extraordinaire.
Et au niveau
ça, c'est...
pédagogique, on avait travaillé avec l'ensemble des maîtres, les 18 écoles, et on avait travaillé qu'est-ce que ça voulait dire écrire ensemble.
Oui.
Et c'était difficile pour des enfants. Qu'est-ce que c'est que écrire ensemble? Donc, on était passé par le jeu théâtralisé d'abord. Et après, les enfants transcrivaient ce qu'ils avaient joué. Donc, il y avait le départ. Ouais. Et après, c'était forcément 4 classes ouais. qui proposaient. Et en nouveau, 4 classes. Donc, le livre, c'est un livre comme les livres dont vous êtes le héros. Mm-hmm. On peut aller... en fait, ça fait beaucoup d'histoires.
Ouais.
C'est multiplié.
Ouais,
voilà. On peut inventer plein d'histoires.
Voilà. Voilà ce que je peux dire.
Et... là, il y a eu un enthousiasme de la part des enseignants, de la part des enfants, puisqu'il fallait trouver des suites à quelque chose qui était donné au départ. Et on s'est aperçu qu'il y avait des fuites au centre de loisirs. Ils échangeaient la suite qui était, qui avait été faite par l'autre classe pour savoir avant comment ça allait se passer. Ça nous a beaucoup fait rire.
Ils avaient compris le système.
Ils avaient compris le système. Voilà.
C'était en 1995. J'aime bien les dates. Hein.
Oui, moi, pas du tout.
94. 93-94. Et 94-95, le livre a été écrit.
Et c'est ça, le livre.
Voilà. Voilà. D'abord, il a été fait d'une façon radiophonique. Et il a débouché, c'était un tel projet extraordinaire, qu'il a débouché sur le livre illustré par les enfants.
Mais réécrit par les adultes, au plus près des écrits des enfants, parce que c'était de l'oral de radio, c'était donc des échanges oraux, et ce n'était pas un texte.
Tout à fait.
Donc c'est là, vrai. On l'a fait pour les enfants, parce que ça devenait trop long et trop difficile.
Abdoulaye, mon ami, rappel du premier épisode écrit par le CM2 de l'école Einstein. Abdoulaye Djemoke, un Zaïrois, débarque en France chez son oncle à la suite d'une blessure au pied. Les habitants de son village Bama luttent contre les Niamey qui veulent leur voler leur puits.
Après avoir visité sa nouvelle école, l'école Picasso, Abdoulaye va vivre sa première journée très mouvementée. Il se fait insulter par Roger, un raciste, à qui il donne un méchant coup de poing. Il fait connaissance d'une fille algérienne, Anan, qui le défend et qui devient son amie. À la sortie de l'école, Roger et sa bande l'attendent, mais il s'enfuit vite. Il ne veut pas se battre. Arrivé chez son oncle, il raconte sa journée. Il est malheureux car il ne s'est pas fait d'amis et ainsi il décide de ne plus aller à l'école. Triste, il se jette sur son lit et s'endort en pensant à sa famille. Deuxième épisode. Profondément endormi, Abdoulaye fit un horrible cauchemar. Il voyait sa mère qui essayait de comprendre un panneau et qui soupirait.
Ah, que j'aimerais savoir lire et écrire comme mon fils.
En effet, elle ne savait ni lire ni écrire, malgré l'inscription en grosses lettres.
Territoire de Niamey. Défense d'entrée.
Elle y entra et se fit attaquer par un groupe de Niamey. Ce n'était qu'un rêve, mais terrorisée, Adoulaïde se réveilla et cria.
Non, non!
Son oncle, qui dormait dans la pièce d'à côté, l'entendit crier. Il accourut dans sa chambre et lui dit.
Que se passe-t-il, Abdoulaïde?
Rien, rien, juste un mauvais rêve.
Alors rendors-toi, nous en parlerons demain matin au petit déjeuner.
Abdoulaïde se rendort en pensant qu'apprendre à lire et à écrire aurait pu aider sa mère. Et il se décide à retourner à l'école. Le lendemain matin, Abdoulaye traîne et se lève au dernier moment. Il ne veut pas parler de son rêve à son oncle. Il part très vite en disant
« Au revoir, je suis en retard. »
« Et ton petit déjeuner ?»«
Tu vois bien que je suis en retard et puis je n'ai pas faim. Au revoir, à ce soir. »
Il ferme rapidement la porte et dévale les escaliers 4 à 4. Abdoulaye a pris sa décision. Il veut repartir au Zaïre. En bas de l'immeuble, il rencontre Anan.
Je ne croyais pas que tu viendrais me chercher.
Puis, il se dirige vers l'école. Abdoulaye se demande s'il va lui faire part de sa décision de partir. Ils entrent maintenant dans la cour de l'école. Et Abdoulaye se décide à parler.
Dis, Anan, tu peux garder un secret?
Bien sûr. Qu'est-ce que c'est?
Ma famille est en danger au Zaïre. Je dois aller les voir.
Comment ça, en danger? Ah oui, tu m'as déjà dit. Mais rappelle-moi de quoi il s'agit.
Ma famille est en danger au Zaïre. Parce que les Niamey, ils attaquent pour leur voler leur pluie. Je voudrais savoir comment vont mes parents.
Mais comment vas-tu faire?
Je me débrouillerai.
À ce moment-là, une branche craque. Ils savent que quelqu'un les a entendus. Mais qui est-ce? La sonnerie retentit. Les élèves se rangent dans la cour et attendent leur maître, Monsieur Carrier. Abdoulaye et Anan, en queue de rang, sont inquiets. Ils observent leurs camarades. Qui les a écoutés? Tout à coup, Marie, la directrice, arrive et leur dit.
Votre maître m'a téléphoné. Il ne pourra pas venir. Il a la grippe. Je vais vous répartir dans les autres classes. Toi, Abdoulaye, tu vas aller en CM2B. Et toi, Anan, en CE2A.
Abdoulaye et Anan sont déçus. Ils auraient bien voulu être ensemble pour continuer leur conversation. Ils le demandent à la directrice.
Non, pas question. Si tout le monde en fait autant, je n'en finirai pas. Je continue. Toi, Hervé, tu vas avec Abdoulaye et toi, Jérôme, avec Anan.
Elle fait de même avec tous les élèves de la classe. Abdoulaye et Anan font une drôle de tête. Hervé et Jérôme, des copains de Roger, s'en rendent compte. Hervé s'approche d'Abdoulaye et d'Anan.
Vous voulez qu'on change? Je vais avec Jérôme en CM2B et vous vous retrouvez ensemble en CE2A.
Tu crois? C'est quand ça va pas nous poser de problème.
Mais non, je l'ai déjà fait l'autre fois. Mais motus et bouche cousue.
Bon, d'accord.
La directrice dit. Et maintenant, allez dans les classes que je vous ai indiquées.
Les élèves prennent leur cartable et partent par groupe de deux. Abdoulaye, Anan, Jérôme et Hervé s'arrangent pour être les derniers. Et dans le couloir, ils font l'échange. Abdoulaye et Anan frappent à la porte du CE2A.
Entrez et allez vous asseoir au fond. Et parlez doucement, ne me dérangez pas.
Ils s'installent rapidement sans faire de bruit. l'adversaire d'Abdoulaye et Pierre, le meilleur ami de Roger, se retrouvent ensemble dans une autre classe.
Eh, tu sais, Pierre, j'ai espionné Abdoulaye et Anan ce matin. Ils sont arrivés ensemble. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit.
Non, je ne sais pas.
Alors, essaie de deviner.
Je ne sais pas, moi. Abdoulaye veut se battre avec toi ?
Mais non, il n'est pas de taille à m'affronter.
Alors, tu me racontes ?
Bon, d'accord, je te l'ai dit. Eh bien, il va se tirer.
Quoi ? Il va faire une fugue ?
Ben ouais, c'est pour ce soir. Pendant ce temps, Abdoulaye et Anan continuent leur conversation.
Dis, Anan, tu sais qui aurait pu nous écouter ce matin ?
Il n'y en a qu'un pour faire ça. Ça ne peut être que Roger.
Comment peux-tu en être sûr ?
Mais si, rappelle-toi, il était rangé quand il est arrivé.
Leur conversation est subitement interrompue par la sonnerie de 10h30. Tous se rangent et descendent dans la cour. Roger, avec un grand mouvement de bras, dit à sa bande.
Venez, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous savez, Abdoulaye, il veut fuguer. Je l'ai espionné ce matin quand il parlait avec Anan. Et j'ai entendu leur conversation.
Pierre intervient.
Mais pourquoi veut-il partir ?
Qu'est-ce que j'en sais ? Parce qu'on lui fait peur. Tiens, je viens d'avoir une idée. Si on lui tendait un piège ?
Oui, mais quelle sorte de piège ?
On l'attendra à la sortie et on l'obligera à nous dire où il veut fuguer.
À ce moment-là, Pierre vit Abdoulaye et Anan se diriger vers les toilettes. Il dit
« Je vais aux toilettes. Continuez, je reviens vite. »
Pierre rejoint Abdoulaye et Anan discrètement. Il leur fait signe de le suivre. Il ne veut pas être vu de Roger et de la bande.
Il annonce.
La bande à Roger va te tendre un piège. Ils vont t'attendre à la sortie. Ils veulent savoir où tu veux fuguer. Et ils veulent sans doute te dénoncer.
Moi, fugue ? Mais Pierre n'a pas entendu. Il était déjà reparti.
La sonnerie retentit. Les élèves se rangent et montent en classe. Abdoulaye et Anan, sur l'instant, se sont demandé de quoi Pierre voulait parler. Mais ils ont vite compris que c'était bien Roger qui les avait entendus ce matin et qui avait mal interprété le secret d'Abdoulaye. Le midi, Roger ne mange pas à la cantine. La bande en profite pour commenter le piège de Roger. Tous ne comprennent pas pourquoi Roger s'acharne sur Abdoulaye. Alors Pierre prend la parole.
J'ai prévenu Abdoulaye que Roger l'attendrait à la sortie.
Très bonne idée.
Il faudra ralentir Roger dans le couloir.
Mais comment ?
On lui accrochera son blouson à un porte-manteau au bout du couloir.
Parfait. Ils ne disent rien jusqu'à ce soir.
L'après-midi se déroule sans problème comme prévu. Déjà la sortie des classes arrive. Tous les élèves sortent. Abdoulaye est un des premiers à sortir de l'école. Roger sort et cherche son blouson que Pierre a caché au fond du couloir avant de rentrer en classe. Roger est furieux. Il court dans le couloir en grognant et en interpellant ses copains.
Vous ne pourriez pas m'aider à chercher mon blouson au lieu de me regarder sans rien faire ?
Ils font semblant de chercher un peu et se dirigent vers la sortie. La directrice qui passe dans le couloir ramasse un blouson et, arrivée à côté de Roger, lui dit
« Ne serait-ce pas ceci que tu cherches ?»
Et elle lui montre le vêtement qu'elle a trouvé.
« Oui, merci madame, c'est bien le mien. »
Et il part en courant, en espérant que ses copains ont réussi à rattraper Abdoulaye. Pendant ce temps, Pierre et les autres rattrapent Anan et la questionnent.
« Où se trouve Abdoulaye ?»
demande Pierre.
« Je ne sais pas. Je ne dois pas le dire, »
répond Anan.
Pourquoi ne veux-tu pas le dire? Je ne vous fais pas confiance. On a lâché Roger. Maintenant, tu peux nous dire où il se cache. Alors suivez-moi. Nous allons chez son oncle.
Tous partent en courant chez l'oncle d'Abdoulaye. Il sonne. L'oncle ouvre la porte et voit Anan. Alors il comprend tout de suite que la visite est pour Abdoulaye. Et il l'appelle.
Abdoulaye, c'est pour toi.
J'arrive, qui est-ce?
Dépêche-toi.
Et il fait entrer les enfants. Abdoulaye court dans le salon et s'arrête brusquement, surpris de voir Anan avec les copains de Roger.
Pourquoi êtes-vous venu?
Demande Abdoulaye.
Tu sais, on est avec toi maintenant. On a laissé tomber Roger parce qu'on en a marre de jouer les racistes. Le piège que voulait te tendre Roger est trop méchant. Et maintenant, tu peux nous dire pourquoi tu veux partir.
Mais, je ne veux pas partir.
Allez, dis-le-nous. Ce n'est pas une honte de vouloir partir.
Parce que j'ai fait un cauchemar. Je voyais ma mère se faire attaquer par les Niamis. J'ai peur que ce soit la réalité. Et maintenant, je veux voir ma famille ou avoir des nouvelles.
Mais si tu y vas, tu seras aussi en danger. Rappelle-toi, tu es venu en France à cause de ta blessure au pied.
Abdoulaye ne sait plus quoi faire. Il sait qu'il a des amis maintenant. Il est content, mais ses parents et ses soeurs lui manquent. Comment faire pour avoir de leurs nouvelles? Il est si loin d'eux, de son pays. Et quelle va être la réaction de Roger?
C'était le deuxième épisode d'Abdoulaye mon ami.
Réalisé par le CM2 d'Annick Lecomte de l'école Jacques Solomon.
Bonjour, notre école s'appelle Amocha, nous sommes dans la classe de CM1A, notre maîtresse s'appelle Nadine.
Nous avons passé beaucoup de temps avec les médecins scolaires pour faire la suite d'Abdoulaye mon ami.
Nous sommes contents de vous présenter ce que nous avons imaginé.
Le lendemain matin, Anan est à peine arrivée dans la cour que Roger l'aborde d'un air agressif.
Alors, il a peur qu'on se sauvage. Il est retourné dans sa forêt.
Allons, Roger, tu ne vas pas recommencer. Laisse-nous un peu tranquille.
Ok, pour quand le mariage?
Et alors, ce n'est pas tes oignons. Et d'abord, Abdoulaye est plus fort que toi et plus intelligent. Anan hausse les épaules et essaie de s'éloigner. Mais Roger la rattrape brutalement par la poignée de son cartable.
Ne redis jamais ça. Sinon...
Roger lève la main, prêt à la frapper. Arrête de crâner, tu ne me fais pas peur, mauviette. C'en est trop pour Roger. Sa main atterrit sur la joue d'Anan, en laissant une belle marque rouge. Roger file rejoindre sa bande tandis qu'Anan, au bord des larmes, se dirige vers la classe. La sonnerie retentit.
Anan a beau regard de tous côtés, Abdoulaye n'est pas encore arrivé.
A-t-il eu peur de revenir à l'école ?
Anan n'est pas loin de la vérité, car lorsqu'il s'est réveillé ce matin-là, Abdoulaye n'avait vraiment aucune envie d'aller à l'école. Son oncle essayait de l'encourager et Abdoulaye, préoccupé, finit par prendre son cartable et sort de la maison. Il hésite encore beaucoup, fait quelques pas vers l'école, revient en arrière, fait le tour du pâté de maison.
Si je vais à l'école, il va encore me chercher des histoires et m'insulter. Mais si je n'y vais pas, je serai un lâche. J'aurai l'air d'avoir peur. Et puis Anan m'a aidé hier. Ils vont l'embêter, elle a peut-être besoin de moi.
À cette pensée, Abdoulaye se décide. Il doit revenir à l'école. Il se met à courir et arrive juste au moment où les élèves de M. Carrier viennent de s'installer dans la classe. Essoufflé et gêné d'être en retard, Abdoulaye s'excuse.
Tu n'as pas encore l'habitude de nos horaires, Abdoulaye ? Ce n'est pas très grave pour aujourd'hui, mais demain, il faudra essayer de te réveiller plus tôt.
Abdoulaye et M. Carrier ont tous les deux remarqué la joue rouge d'Anan. Mais Abdoulaye n'ose pas lui parler et M. Carrier pense qu'il éclaircira plus tard cette histoire.
Maintenant, les enfants, nous allons commencer par un travail d'expression écrite. Prenez une feuille de classeur. Et chacun va raconter en quelques lignes sa soirée d'hier.
Tous les enfants écrivent, sauf Roger qui, l'air maussade et buté, garde la tête dans ses mains et se contente de faire des vagues sur sa feuille.
Un quart d'heure plus tard, voyant que tout le monde semble avoir terminé, M. Carrier s'adresse à la classe.
Qui souhaiterait nous lire son texte à haute voix ?
Plusieurs mains se lèvent aussitôt. Anan, tu veux commencer ?
Hier soir, je suis sortie de l'école avec Abdoulaye. Nous bavardions, il me parlait de son pays, quand tout à coup, Roger et sa bande nous ont agressés, mais nous n'avons pas voulu nous battre et nous nous sommes enfuis en courant. En rentrant chez moi, une surprise m'attendait. Mon père, qui est aviateur, était rentré plus tôt que prévu de son voyage au Congo. Et il m'a même ramener un cadeau un peu bizarre. Pour fêter ce retour, nous sommes tous allés dîner dans un restaurant africain.
D'autres enfants lisent aussi leur texte. Puis arrive le tour de Jérôme. Son intervention intéresse particulièrement Abdoulaye. En effet, après avoir raconté son entraînement au judo, Jérôme annonce.
Le président du club a décidé que jusqu'à la fin du mois, des initiations gratuites seront proposées tous les mardis et vendredis pour permettre à tous ceux qui s'y intéressent de découvrir le judo.
C'est alors que M. Carrier remarque Roger en train de bâiller.
Roger, toi qui as l'air de t'ennuyer, tu vas nous lire ton texte.
Roger, honteux, devient rouge comme une tomate. Il refuse de parler. Monsieur Carrier se dirige vers lui.
Ah ! Je vois que tu n'as rien écrit. Très bien. Roger, je vais te garder un peu pendant la récréation. On a besoin de parler tous les deux. Ainsi que toi, Anan, j'ai quelques questions à te poser.
Au moment de la récréation, donc, quand tous les enfants sont sortis, Monsieur Carrier s'adresse d'abord à Anan.
Que s'est-il passé ce matin ? Tu avais la joue toute rouge et on aurait dit que tu pleurais. Ce ne serait pas encore une histoire de Roger ?
Oui, c'est moi. Anan m'a provoqué, elle m'a traité de crâneur et de mauviette. Moi, quand on me cherche, on me trouve.
Sais-tu qu'on n'a pas le droit de taper une fille, même avec une rose ?
Ce n'est pas très grave, monsieur. C'est vrai, c'était aussi un peu de ma faute, mais j'aimerais bien que Roger me fiche un peu la paix.
Merci Anan, tu peux rejoindre tes amis.
Roger baisse la tête et reste silencieux.
Si cela continue, je vais être obligé de convoquer tes parents.
À ce moment, Roger s'effondre ou sanglotant.
J'en ai assez. Tout le monde me rejette.
Quoi, tout le monde? Qu'est-ce que tu veux dire?
Oui, tout le monde. Anan, ma mère.
Ta mère? Qu'est-ce que tu racontes? Elle s'occupe très bien de toi.
Avant, oui. Mais plus maintenant. Maintenant, il y a un nouveau dans sa vie. Un autre homme. Un de Côte d'Ivoire. Et moi, j'existe plus. Je vois plus mon père. Et le nouveau, il voudrait que je l'appelle papa en plus. Il me traite comme un esclave. Si j'ai rien écrit tout à l'heure, c'est parce que hier soir, ils étaient même pas là. Et moi, j'étais tout seul avec mon chien. Si ça continue, je m'enfuirai, j'irai chez ma grand-mère.
Monsieur Carrier, tout ému par ce récit, essaie de calmer Roger. Nous essayerons de reparler de tout ça avec ta mère et avec Marie. En attendant, essaye un peu d'oublier tout ça quand tu es à l'école.
Pendant ce temps, dans la cour, Abdoulaye, après beaucoup d'hésitations, se décide à aller questionner Jérôme.
Excuse-moi de te déranger, Jérôme, mais ce que tu as dit tout à l'heure en classe pour le judo, c'est vraiment pour tout le monde?
Bien sûr.
Est-ce vraiment gratuit?
Oui.
Et ça se passe où?
Au gymnase Pierre-Marie Curie.
Mais si, je ne sais pas où c'est.
Si tu veux, on ira ensemble vendredi prochain.
D'accord, merci beaucoup. Mais après, si je veux m'inscrire, combien ça coûte?
En principe, c'est 560 francs. Mais peut-être que le prof te fera un prix, parce que tu arrives au milieu de l'année.
Abdoulaye, tout réjoui, a envie de crier, de sauter, de faire partager sa joie. Il ne pense plus qu'à une chose, vivement vendredi. Le soir, en rentrant, il est étonné de ne pas trouver son oncle Ségor, qui lui a laissé un petit mot sur le frigo. Ne t'inquiète pas, je rentrerai un peu tard. J'ai rendez-vous à la préfecture de Créteil. Abdoulaye prend son goûter, fait ses devoirs et attend patiemment en regardant des photos de sa famille. Soudain, la porte s'ouvre brusquement et Ségor entre en criant d'un air joyeux.
Abdoulaye, Abdoulaye, j'ai trouvé du travail. Je commence lundi. La vie va être un peu plus facile.
Youpi, ça c'est une bonne nouvelle. Moi aussi j'en ai une. J'ai parlé avec Jérôme et je vais aller avec lui à des séances de judo gratuites.
Je suis vraiment content pour toi. Si ça te plaît, je pourrai t'inscrire, c'est pas trop cher.
Voilà, notre histoire est terminée. À vous de la continuer.
Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie? Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants.
Abdoulaye, tu viens de me chercher?
Non, j'ai pas envie de venir.
Pourquoi?
Parce que tout le monde m'embête à l'école.
Mais tu t'en fiches?
Maintenant, après, Roger, il va vouloir nous taper.
Ben non, t'as qu'à le dire au maître.
Mais si je dis au maître, ils vont rien faire. Eh ben, ils vont lui dire de ne pas recommencer.
Eh ben même, c'est pas lui qui va te gâcher toute ta vie.
Mais même, je veux pas venir.
De toute manière, tu n'es qu'un lâche. Faut qu'on aille parler à Roger.
Mais ça sert à rien si je suis un lâche, puisque je veux pas me bagarrer à l'école.
Eh ben, tu vas pas te bagarrer. Je t'ai dit qu'on va parler avec lui.
Mais je sais pas encore. Parce que j'ai peur qu'il me tape avec ses amis.
Eh ben, de toute manière, voilà ce que je t'ai dit, que tu n'étais qu'un lâche. T'as peur de Roger.
Je sais pas, je vais essayer de réfléchir un peu, là.
Abdoulaye, viens!
Bon, d'accord, si t'insistes, oui, je vais venir. Je vais chercher mon cartable.
D'accord, je t'attends là. Dépêche-toi, surtout, hein.
D'accord.
Anan et Adoulé arrivent à l'école et Roger est déjà là.
Bonjour, Roger.
Ça va?
Fini? Ouais. Non, j'ai pas trouvé le
exercice. C'était 20?
C'était 20?
Oui?
J'ai mis 60, moi.
T'as tout faux.
C'est tout faux.
C'est toi?
Roger.
Est-ce que 2 font 4? Quoi?
Est-ce que tu veux devenir ami avec Abdoulaye?
Non!
Mais pourquoi il est pas si méchant que ça?
Non, pourquoi? C'est pas moi qui t'a provoqué!
Non, c'est toi!
C'est
toi qui m'a provoqué! Non, non,
c'est toi qui m'a provoqué! Laisse-moi aller! Casse-toi!
Tu peux lui parler autrement,
c'est toi!
C'est
toi
qui méchant que ça!
C'est vrai, tu peux
lui
dire
que c'est toi qui te provoque!
Voilà, c'est toi!
Tu l'école, tu voulais me taper avec tes
copains! À la sortie, t'es mort!
Je suis rentré chez moi en cours!
Tu vas voir!
Je tiens à voir, mon père, j'étais fatigué!
Mon père, il va arriver, il va défoncer ton oncle en moins de deux.
Ouais, c'est toi. Ouais. Mon oncle,
pourquoi tu
rien à dire sur ça.
Pourquoi tu tires la langue?
C'est trop méchant,
Roger. Va avec lui, allez. Vas-y, c'est trop méchant, Roger, toi.
Trop méchant, Roger.
Ouais, là, assiste avec moi, il a voulu se battre.
Ah oui, là, je pense que quand même, il exagère.
Ouais. Ouais, trop raciste.
Même, il a voulu que je joue avec personne et il veut que des copains pour lui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, on peut jouer tous avec Abdoulaye et laisser Roger de côté, vous êtes d'accord?
Oui, une idée comme ça, on va dire
aux autres. Alors, on peut laisser Roger de côté et jouer avec Abdoulaye maintenant, vous êtes d'accord?
Oui. À la récréation, les enfants jouent.
1, 2, 3, soleil! Mathieu, bougez!
Non, j'ai pas bougé, c'est pas vrai,
t'as pas bougé! Bouge pas, bougez! 1, 2, 3, soleil!
Boubacar,
bougez!
Non, j'ai pas bougé Abdoulaye!
Si t'as bougé, t'as même bougé avec Paul!
J'étais en train de
rester
comme ça,
Abdoulaye!
Non, j'ai pas bougé!
Je joue!
Non!
Pourquoi? Nous avons décidé qu'on jouait nous seuls.
Je vous ai rien fait!
Si, tu traites Abdoulaye de sang noir.
Je l'ai pas traité, c'est lui qui a commencé la baston!
Si, c'est toi qui as commencé.
Allez, c'est un sale jeu, je joue pas, allez.
Hey, il y a le maître qui nous appelle pour aller à la piscine.
Ouais, on y va à la piscine, mais mec,
j'ai oublié mes affaires.
Mais c'est pas grave, Sylvie, ce sera pour une prochaine fois.
Ouais, il a raison.
À la piscine, les enfants apprennent à nager. Après l'accident, les enfants retrouvent Philippe à l'école.
Philippe, tu sais, Roger s'est noyé.
Pas si grave que c'est, il a avalé un petit peu d'eau. Bon, maintenant, on essaie de retirer tout l'eau qu'il a dans la bouche. Et puis sinon, après, il va peut-être venir nous voir et puis ça va y aller mieux. Tiens, il y a Roger. Ça va, Roger?
Ouais, ça va.
Qu'est-ce que t'en fais à la farmerie?
Ils m'ont enlevé toute l'eau.
Heureusement qu'Abdoulaïd, il était là. Sans ça, tu te serais noyé.
Merci, Abdoulaïd.
Tu veux bien me causer maintenant?
Oui.
D'accord.
Tu pourras m'apprendre à nager
mardi à 4h30 si tu veux.
D'accord.
Aïe, ils sont devenus copains, c'est génial. Maintenant, on va tous s'amuser ensemble.
Allez, venez, on y va s'amuser.
Ouais.
On joue à quoi? On a quelqu'un. Tiens.
Oh, je suis très content que tu t'es réconcilié avec Abdoulaïd.
C'est normal, il m'a sauvé.
Moi, ça m'a fait très plaisir.
Moi, je suis content que je sois devenu copain avec Roger.
Moi aussi.
On pourrait souhaiter ça en faisant, je sais pas, quelque chose.
On a qu'à aller tous au parc floral.
Au musée du Louvre.
Au jardin des plantes.
Pas forcément, on peut faire autre chose d'autre.
On pourrait rester ensemble.
Bon, bah alors...
Une boum, alors, ça vous dit?
Ouais, ouais, c'est bien, ouais, c'est une bonne idée.
Alors on l'a fait chez qui?
Chez moi.
Ok.
Vous êtes d'accord?
Ouais. Mais...
Oui.
Mais il faudra ramener tout, hein.
Moi, je vais ramener de la boisson, des Coca-Cola.
Un peu tout, moi. Ouais, des cassettes.
Ouais, je ramène des gâteaux.
Amener des chewing-gum. Okay. Alors, alors à ce soir, n'oubliez pas pour la boum de Roger, hein.
Ouais.
Au revoir. Salut. Allez, salut.
À 4h30, les enfants sortent de l'école.
Salut les mecs!
Salut, mon pote à la compote.
Ce soir, je fais une boum.
Mais où ça,
Chez moi.
Je peux venir chez toi.
Mais oui, je peux venir chez moi.
Je peux venir chez toi.
Mais oui, tu peux venir chez moi.
Je peux venir chez toi.
Oui, tu peux venir chez moi.
Est-ce qu'il y aura de la musique?
C'est quoi comme cassette?
C'est Michael Jackson.
On va s'amuser cette soirée-là et on va bouffer comme des fous.
Ouais,
yeah. Aboulé arrive chez son oncle.
Bonjour, oncle.
Ah, bonjour Abdoulé. Alors, ça s'est bien passé cette journée d'école?
Oui, je me suis réconciliée avec Roger. Il a coulé dans le grand bain, je suis allée le sauver.
Ah, tu l'as sauvé?
Oui. Et je voulais demander ça... si je peux aller dans une boum de Roger.
Une quoi?
Dans une boum.
Une boum? C'est quoi ça, une boum?
C'est où il y a des gâteaux à manger et tout. Il y a de la chanson, il y a plein de choses. Ça fait des choses comme ça.
Mais c'est où ça? Tu vas y aller tout seul?
Hein? Non, avec des amis et des copains.
Chez Roger?
Oui.
C'est chez Roger?
Oui.
Ah bah tu peux... Non, c'est hors de question.
Allez,
hein.
S'il te plaît.
Ah non, mon petit garçon, tu peux pas aller chez Roger. Tu peux rien apporter. J'ai plus un sou. Tu peux rien apporter.
Non, non, non. Je suis obligé de ramener.
Ah si, on va passer quelqu'un les mains vides. Ouais, non, non. Non, non, moi je peux pas te laisser aller tout seul.
Allez, s'il te plaît.
Je te dis non, c'est pas possible.
Allez, si.
J'ai pas d'argent, je peux pas te laisser. Je n'ai pas d'argent.
Mais c'est pas payant.
Mais ça suffit. Allez, va dans ta chambre.
T'es méchant, je vais plus rien faire pour toi, c'est fini.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Il veut rien que je fasse. Il veut même pas que je fasse rien. Je lui ai dit qu'il m'a inscrit au judo. Il veut même pas, il est méchant, il exagère. Oh là là. Et si je trouvais une idée à faire quelque chose? Hein? Et si je demandais à mes copains de m'aider?
Mais dans le verbe, sur la position A, mets-toi dans la tête, il n'est jamais trop tard. Oh, mets ton cerveau sur la position A. Mets-toi dans la tête, il n'est jamais trop tard. Oh, tes amis sont arrivés ces derniers 35 ans à Paris, c'était pour gagner de l'argent. On leur avait parlé du grand rêve parisien. Sont arrivés ici, ils ont tombé moins que rien. Dans des bidonvilles, on les avait installés. Des maisons vantaux sans électricité. Pour les faire déménager 5 années plus tard. Une cité bidon, c'était du désespoir. Mais pour bouger, mets ton cerveau sur la position A. Mets-toi dans la tête, il n'est jamais trop tard. Oui, mets ton cerveau sur la position A. Mets-toi dans la tête, il n'est jamais trop tard. Quand on a toutes les fois où on n'a pas voulu, si on fait les différences de son voisin. Au moment où on a tourné le dos, quand quelqu'un ou quelqu'une nous a tendu la main. À tous ceux qu'on avait jalousés, papa méchanceté, juste qu'on avait trop faim. Car pour moi c'est du mal, n'est pas mon idéal. Mon cœur c'est du vin, mais moi j'allume un joint. Car pour bouger, mets ton cerveau sur la position A. Mets-toi dans la tête, il n'est jamais trop tard. Oh, mets ton cerveau sur la position A.
dans le cadre du projet d'éducation à la santé. Nous avons travaillé sur une suite de l'histoire d'Abdoulaye Djemoké.
Abdoulaye arrive du Zaïre en France. Il habite chez son oncle à Ivry-sur-Seine. Il va à l'école. Il est présenté à ses nouveaux camarades par Marie, la directrice.
Le maître, Monsieur Carnier, met Abdoulaye à côté d'un raciste nommé Roger. Ils font de la grammaire et Abdoulaye ne comprend rien.
À la récréation, Roger provoque Abdoulaye. Ils se battent et Abdoulaye se défend. Après la récréation, ils font des mathématiques. Abdoulaye est brillant.
À la sortie, Roger et sa bande attaquent Abdoulaye. Ils courent jusque chez son oncle avec une copine, Anan. Abdoulaye raconte sa journée à son oncle.
Comme son oncle ne peut pas lui payer le judo, il ne veut plus retourner à l'école. Et il est persuadé qu'il n'aura jamais d'amis.
De la prochaine émission inédite à la rentrée et pour toute la fin de l'année, vous pourrez retrouver une nouvelle rubrique
40 ans et des milliers d'enfants.
Si vous en êtes content, on vous attend. Enfants comme parents, envoyez vos témoignages et vos messages.
Radio Cartable. Des écoles d'Ivry.
À l'amour, ils appellent ça la paix, ils appellent ça le progrès, ils appellent ça liberté, ils appellent ça démocratie, et voilà, tout est dit. Ils appellent ça la loi, entendez-vous ces voix, voix menant le troupeau, agitant les grelots, entrez, entrez dans la ronde. Voici le meilleur des mondes. En avant pour la folie, l'appétit du profit, l'artifice stupide, des visages sans rides. Ils ont le pouvoir des mots. Ils ont le pouvoir des
vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique la complicité de Flo Descailloux, qui vous prépare des cocktails musicaux de son cru. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un livre qui, je pense, va passionner les auditeurs. C'est un livre de Sylvain Boulouk, Meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes. Ça vient de paraître aux éditions du Cerf. Et puis, en fin d'émission, il y a Francis Vladimir, qui est déjà venu dans Bibliomanie, qui est auteur, qui est poète, qui vient d'ailleurs aussi de publier JMJ aux éditions Bérénice, édition nouvelle. Francis Vladimir nous présentera aussi la programmation des mardis de Jean-Loup. Ce sont des mardis littéraires où on parle de poésie, place Saint-Sulpice, qui ont été d'ailleurs inaugurés par un poète qui s'appelait, je crois, Jean-Loup Guérin. Voilà, et il y a toujours des rencontres très sympathiques. Et comme un bonheur n'arrivant jamais seul, j'ai demandé à notre ami Francis Vladimir de nous prêter sa voix pour, comme on dit, lire des extraits du livre de Sylvain Boulouk, parce qu'il y a beaucoup de documents. Hein. C'est un travail d'archives, Sylvain Boulouk, que vous avez fait. Combien de temps ça vous a pris, ce travail de collecte de documents?
Alors, en tant que tel, quelques heures, et en même temps quelques dizaines d'années, puisque en fait c'est un travail sur le long terme. C'est-à-dire que cet événement a été évoqué depuis extrêmement longtemps par les témoins, et donc c'est la lecture de ces témoignages qui m'a mis sur cette piste, et jusqu'au jour où j'ai pu trouver des rapports de police sur cette affaire, et ce qui m'a permis de compléter un puzzle qui était très fragmentaire et d'en faire un réel récit qui est une mise en perspective à la fois historique et documentaire de ces événements du 21 janvier 1924.
21 janvier ou 11 janvier?
11 janvier. 21, je suis désolé, c'est. Parce que. C'était la. Non, 21 janvier, c'est le centenaire de la mort de Lénine. Ça n'a rien
oui,
à
voilà,
voir.
Mais bon.
Alors, c'est un autre centenaire.
11 janvier 1924, voilà, il y a cet événement, enfin, voilà, où les anarchistes vont laisser la vie, hein, dans cette. Vous allez tout nous dire sur ce jour. Mais. Je voudrais que vous vous présentiez avant. Vous êtes historien de la gauche radicale. Quel est un peu votre parcours, Sylvain
Boulouk?
Alors,
je suis historien, donc enseignant par ailleurs.
Oui.
Et en fait, donc, j'ai commencé par travailler sur l'anarchisme. J'ai fait un premier ouvrage sur les anarchistes et les guerres coloniales qui est apparu il y a une vingtaine d'années. Et puis, en même temps, j'ai travaillé beaucoup sur le communisme avec un long séjour dans les archives dites de Moscou, donc dans les archives de l'International communiste, duquel j'ai ramené un certain nombre de documents qui m'ont permis de faire une biographie de Maurice Trian, qui était l'inquisiteur rouge, entre guillemets, du Parti communiste, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôlait tous les militants. Et puis un deuxième ouvrage sur les listes noires du PCF, puisque le PCF les exclus étaient fichés, non pas par les services de police, ils pouvaient l'être également, mais étaient fichés par cette police interne du parti qui était donc dirigée par le Maurice Tréant dont je viens de parler. Et puis je suis en train de terminer un autre gros travail sur syndicalisme et communisme entre les deux guerres. Et donc c'est en travaillant là-dessus que j'ai pu compléter un certain nombre d'éléments de la documentation, puisque j'ai retrouvé un certain nombre de traces de cette histoire également dans les archives à Moscou. Et le gros du dossier n'était pas à Moscou, mais était à Paris, puisque comme il y a eu mort d'homme, il y a eu une enquête policière. Ouais. Et l'enquête policière donc était accessible. Et ça a permis de construire le livre en entier avec non seulement des rapports de police, les journaux de la période concernée et puis les mémoires des militants qui avaient pu, bien des années après, expliquer un certain nombre de choses de ce qu'ils avaient vu, avec une particularité dont on parlera peut-être à la fin, qui est qui a tiré et où tout le monde s'est tu.
Oui, voilà. Alors, vous dites d'ailleurs, l'ouvrage peut être lu au choix comme une enquête policière à suspense ou comme une analyse critique des auditions et articles de presse présentés. Pour laisser le lecteur libre du sens de sa lecture, les faits historiques sont énoncés en fin d'ouvrage. Donc il y a une liberté de lecture, ça c'est volontaire, de laisser un peu au lecteur cette liberté de...
Oui, il y a vraiment eu, de ma part, c'était une mise en perspective historique initiale sur ce que peut être la violence dans les milieux militants, ce que peut être la violence communiste en partie.